Nous revoilà, Chronique Hebdo, au micro de Radio Libertaire, l'émission du jeudi 25 avril 2013. Jacques Ejossi, chroniqueur à Radio Libertaire, dans l'émission Chronique Hebdo. Alors, avec l'absence de Gérard, mais que vous retrouverez très prochainement, c'est sûr. Donc voilà, peut-être on va faire une petite inversion avant de reparler de l'école et de Jules Ferry, que tu affectionnes beaucoup, Jacques. On va peut-être parler un petit peu du nucléaire, puisqu'on on l'avait annoncé en début d'émission.
Oui, d'ailleurs, ça a un lien très, très précis avec ce qu'on a développé sur la morale, parce qu'on peut dire que l'action, en ce qui concerne le nucléaire, l'action des hommes, depuis le bombardement de Nagasaki, qui a été critiqué d'ailleurs par Albert Camus aussi, hein, puisque en ce moment on parle de lui avec le film sur le premier homme. Eh bien,
on va aller le voir et on en parlera peut-être.
Eh bien, effectivement, c'est la preuve que l'État est complètement étranger à la morale, parce que, et je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai cru entendre que l'aviateur qui avait balancé la première bombe sur Hiroshima ou Nagasaki avait au fond été tellement affecté par cette destruction de plusieurs dizaines de milliers de gens.
Oui, quand il a réalisé
qu'il s'est suicidé. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité, mais je crois qu'en effet, le fait que ce soit militaire ou soi-disant civil, le nucléaire est un véritable crime de guerre.
Mais la technologie aussi, parce que ça me fait penser, quand tu cites cet événement, ça me fait penser toujours à Howard Zinn, qui a été aussi pilote d'avion et qui a dit qu'il avait justement bombardé, je crois que c'est Royan, parce qu'on pensait qu'il y avait des usines d'armement allemand dans la région de Royan. Donc il a participé au bombardement de la ville. Et donc, c'est plus tard qu'il a réalisé ce qu'il faisait, mais il disait que quand il lâchait les bombes, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Ils étaient vraiment... Ouais. Alors,
ça rejoint ce que disait un soldat libanais, je crois que j'ai cité déjà, qui disait quand tu as une arme dans les mains, elle remplace son cerveau.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, revenons à nos moutons. Alors, donc, il y avait plusieurs événements. Il se trouve que ici, dans la région, le Vaucluse, puis à côté, le Gard, et puis aussi la Drôme, je pense, il y a une marche qui a lieu en ce moment, une marche pour la vie, une marche, alors, on le met entre guillemets, une marche... Oui, c'est une marche antinucléaire pour la vie. Et même des fois, ils l'appellent même une marche citoyenne antinucléaire. Bon, alors, on a déjà parlé de citoyen. Et vous savez un peu ce que nous pensons de ce terme-là. Mais enfin, il est très employé dans certains milieux actifs.
Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à une présentation très réformiste, à une espèce de...
C'est une incantation, plutôt.
Oui, et puis, non, mais pour dire, d'accord, on manifeste, d'accord, on n'est pas d'accord, mais on le fait en tant que citoyen.
En tant que citoyen, oui,
et voilà. Et que donc, on a une excuse.
Voilà. Ah ben oui, c'est un faire-valoir. Ouais, oui, on n'est pas complètement dérévoltés, on n'est pas complètement en dehors. Donc, ça se passe ici. Donc, il y a une marche qui dure pendant une douzaine de jours et qui a pour but de passer dans plusieurs villages, de traverser des villes et des villages. Et chaque fois, les personnes... sollicite, je crois, des entretiens avec les maires. Alors, la plupart, évidemment, refusent toute discussion, tout dialogue. Mais ça donne aux marcheurs une occasion de rencontrer d'autres citoyens, on va dire, pour parler un petit peu du nucléaire, parce que quand on les voit débouler avec leurs panneaux contre le nucléaire. Il y a parfois des conversations qui s'initient entre la population et eux. Donc, de ce côté-là, on peut dire que ça a un aspect un peu pédagogique qui peut être intéressant parce que les gens, souvent, quand on parle un petit peu avec eux, ils finissent par se rendre à des raisons, quand il y a vraiment des raisons. Pourquoi est-ce qu'on peut être contre le nucléaire et quand on leur rappelle le danger du nucléaire, puisque justement on est en train de... Puisqu'on est en plus le 26, la veille de cet anniversaire de Tchernobyl. Et donc cette marche va relayer les trois centrales nucléaires assez importantes qui sont Cadarache, Marcoul et le Tricastin. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas une foule énorme, mais c'est comme dans les manifestations à Paris anti-nucléaire. On voit Yves Cochet, on voit, je ne sais plus l'autre nom du député. Bon, on les voit venir, mais ça ne motive pas grand monde. On se bat un petit peu contre des géants. Quand on voit la carte de la France, on est dans une région justement où les centrales nucléaires dans la vallée du Rhône sont nombreuses, les sites de stockage aussi, les usines de fabrication de combustible aussi, les usines de retraitement. On est vraiment très bien entouré ici, hein. On peut le dire, voilà. Mais vous n'avez qu'à prendre une carte sur Internet et voir tout ce qu'il peut y avoir comme centrale nucléaire ou autre sur l'Hexagone. On est quand même le pays le plus nucléarisé, je pense. Hein, Jacques, on est
la zone la plus
oui, regarde.
Oui, avec Cadarache, voir, effectivement, voilà. Tricastin, Marcoul,
ça fait Phénix, ça fait un triangle. Romance, ouais, ouais. Et Toulon, Malvézie, il y en a beaucoup. Golfech aussi dans le sud.
Il y a aussi évidemment la Hague. Hein,
Dans le Cotentin.
Tout le Cotentin, ouais. C'est une zone effectivement extrêmement de fragilisé par l'existence d'Areva et par la centrale de Flamanville, et donc avec depuis fort longtemps d'ailleurs, puisqu'au fond ces installations nucléaires sont très anciennes, avec depuis fort longtemps des constats qui n'ont pas été faites par les médecins français, mais par des médecins anglais, selon lesquels ces constats, il y avait un pourcentage de morts plus important, notamment lié à l'insuffisance thyroïdique dans ces régions, dans ces zones. Effectivement, parce que quand on voit au-dessus de Flamanville, ça m'est arrivé de passer au-dessus avec un petit avion qui venait de Guernesey, eh bien on voit la mer n'est plus comme elle devrait être, hein. C'est comme s'il y avait des déchets blanchâtres qui sortaient des réacteurs de Flamanville.
Voilà. Et alors un auditeur, on va le citer quand même, un auditeur infidèle, comme il se dit, mais quand même un petit peu fidèle, nous a transmis justement un article dans un journal que je connais pas du tout, moi, qui s'appelle Le Tigre, et qui s'appelle Fission Impossible. Et donc, justement parce que il a réagi, donc l'auditeur a réagi en envoyant un courrier à cette revue, pour dire ce qu'il pensait de cet article, et on partage absolument son jugement par rapport à cette personne qui écrit un article par rapport au nucléaire. Et donc, je vais vous le lire parce que c'est, Juste le début, après c'est un comment tu dis Jacques, c'est un peu un cuistre de la science parce qu'il vous fait une description.
Oui, c'est un rapport technologique, scientifique sur ce que c'est qu'un neutron,
un noyau, un atome, voilà. Et comment on fait les fissions, les fusions et tout ça. Donc, il noie un peu le poisson, quoi, après. Alors, je vous donne la lecture de ces quelques lignes. Alors, je donne parfois des conférences consacrées à nos sources d'énergie à des lycéens. Ils ont souvent des avis arrêtés sur la question et sont notamment nombreux à s'opposer à l'énergie nucléaire. Mais quand je leur en demande la raison, ils s'en trouvent immanquablement pour répondre à cause des bombes nucléaires. Cela me choque. Que tout soit clair entre nous, je ne suis moi-même pas un adorateur de l'énergie nucléaire et je reconnais volontiers que les raisons légitimes de s'y opposer ne manquent pas. Mais la bombe atomique n'en fait pas partie. S'opposer à une source d'énergie à cause de ses applications militaires revient, alors tenez-vous bien, accrochez-vous, revient à s'élever contre les feux de cheminée par aversion pour les lance-flammes. Alors, on peut lui décerner le prix de la bêtise puisqu'on était en train de parler puisqu'on était en train de faire l'éloge de ce caractère-là. Voilà, on peut dire ça. Hein. Alors, s'opposer à une source d'énergie à cause de ses applications militaires revient à s'élever contre les feux de cheminée par aversion pour les lance-flammes. Eh ben vraiment, la crétinerie, là, elle est sans dimension.
Ce qui est embêtant, c'est qu'il semble avoir un rôle d'instituteur ou en tout cas de pédagogue.
Alors, c'est ce
quand
que
il
lui
parle
répond
à des enfants. Ouais.
Oui, ben c'est ce que lui répond justement notre ami Julien dans son courrier, parce que là vraiment il prend exactement. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que il se trouve que moi je suis du Vaucluse et que justement quand j'avais 14-15 ans, il y avait une sortie d'école qui nous a amené à Marcoule pour visiter la centrale déjà à l'époque. Parce que bon, 14 ans, ça fait un peu loin pour moi d'avoir cet âge-là. Mais donc voilà, et ça continue. C'est une sortie scolaire. On envoie les enfants, et c'est ce que rappelle Julien donc dans sa réponse, que le lobby nucléaire, il a quand même de gros moyens, parce que pour envoyer toutes les classes pour aller visiter les centrales nucléaires et pour intoxiquer les petites têtes blondes de la nécessité du nucléaire, eh ben voilà, le mieux c'est de passer par l'école de l'abrutissement, l'école de l'intoxication fonctionne bien.
L'école de la République.
Voilà. Alors, on va revenir à la République. Voilà, ben c'est un peu
oui,
tout.
Oui, pour compléter ce que tu dis sur le nucléaire, moi, je ne sais pas si tu l'avais lu ou si les auditeurs l'ont lu, l'article du Canard enchaîné de la semaine dernière qui s'intitule « Nucléaire de rien ». Hein, air de rien. Oui. Et c'est à propos de la façon dont on simule à Nogent-sur-Seine, donc à 100 km de Paris,
oui.
C'est-à-dire que s'il y avait un accident nucléaire dans cette centrale, eh bien Paris risque d'être touché plus ou moins directement, soit par les nuages radioactifs, soit peut-être même par si c'est un séisme, par les effets du séisme. Eh bien, cet article sur ce prétendu exercice de simulation d'une catastrophe nucléaire à Nogent-sur-Marne, ça a été un flop, un échec absolument total, et en plus avec toute une série d'anomalies, de délais qui ne sont pas respectés, de gens qui ne connaissent pas leur travail. Enfin, en tout cas, il y a un article assez développé sur ce point très précis de cette centrale qui risque de détruire notre charmante et magnifique capitale. Et alors, le deuxième sujet que je voulais aborder, qui était dans le monde d'avant-hier, c'est qu'apparemment au Japon, à Fukushima, au Japon, le gouvernement, lui encore, complètement débordé, complètement dépassé, comme le pauvre Hollande en ce moment, eh bien, ne sait plus quoi faire pour, en quelque sorte, arrêter le drame, parce que tous les jours, des milliers de litres d'eau sont contaminés et que ces réacteurs, les six réacteurs, n'arrivent pas à se refroidir correctement et que le délai, alors tenez-vous bien, mais c'est valable aussi pour Fessenheim, le délai pour démanteler cette centrale de Fukushima, c'est 40 années, donc ça sera les enfants ou les petits-enfants qui auront à s'occuper de ce démantèlement. Et donc le gouvernement nippon, ne sachant plus quoi faire, vient de faire appel à des experts, entre guillemets, internationaux, pour venir sur place et pour essayer d'expliquer comment on pourrait arriver finalement à et arrêter ces réacteurs, à faire en sorte que l'eau que l'on déverse et qui est en quantité gigantesque ne soit pas radioactive au point d'aller tuer les poissons dans la mer qui entoure. Et en plus, au moment où le gouvernement japonais faisait appel à ces experts internationaux, d'ailleurs on ne voit pas bien ce qu'ils vont dire de plus, surtout que malheureusement les experts, c'est un peu comme le gars que tu as cité aux deux tigres et qui disent « Oh bah oui, d'accord, c'est un peu long, un peu embêtant, mais enfin on va bien y arriver ». Et donc au moment où ils appellent ces experts, un autre séisme vient toucher la région de Fukushima, donc oui. Il y a quelques jours, magnitude 5,5, et ça a fait trembler la région de Fukushima, mais apparemment ça n'a pas eu d'effet aggravant sur la centrale actuellement qu'on essaye d'arrêter. Voilà ce que je voulais dire, et pour dire en effet que quand on dit une absence totale de morale, c'est non seulement pour la vie des gens qui sont en ce moment en vie, mais c'est pour des générations futures. Ouais. Bah, des dizaines, peut-être même des centaines d'années pour arriver à arrêter cette folie nucléaire, cette démesure.
Mais c'est vrai que, bon, tu vois, par rapport à la marche citoyenne, là, dont on peut contester le terme, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que c'est vrai que cette distinction entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, beaucoup de gens la font, pensent tout le temps à la consommation, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus d'électricité, si on n'a plus de pétrole, enfin voilà, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça une solution. Et très peu font le lien entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Et je trouve que c'est bien parce que quand on parle d'être humain à être humain, les gens voient la chose différemment quand même. Tu trouves pas ?
Oui, c'est vrai.
C'est un peu différent. Oui. Parce que c'est pas que les médias qui vont faire le lien entre le civil et le militaire.
C'est vrai, c'est un petit peu le rôle aussi que nous, on essaye de jouer à Radio Libertaire, dans la mesure de nos moyens et des capacités qu'on a, de faire un peu de, comme dirait Proudhon, de démopédie, c'est-à-dire d'explication.
Alors, en tous les cas, l'argument que donne Julien, c'est aussi un très bon argument, c'est de dire, en tous les cas, même si on ne fait pas le lien avec le militaire, on sait que, par exemple, une centrale nucléaire, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Greenpeace l'avait prouvé en pénétrant dans une centrale. Et actuellement, avec le plan Vigipirate qui a été mis à la puissance, je ne sais pas combien, là, du fait de la petite guéguerre qui est allée nous lancer le père Hollande au Mali. Donc on peut toujours craindre qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Donc ça devient, c'est vrai, c'est une arme redoutable contre le pays même, quoi. Donc je trouve que c'est un bon argument de le donner aux gens, quoi. On vit à côté de bombes à retardement à côté de nous.
Oui, effectivement. Tu voulais ajouter autre chose ?
Non, je crois. Si, je voulais ajouter un truc, c'est que, enfin, je l'ai pas vu moi, mais il y a un film qui sort et qui est un film japonais justement qui évoque un incident nucléaire. Genre Fukushima, et alors c'est un réalisateur qui est japonais, et alors c'est marrant parce que il dit qu'au Japon, le véritable sujet tabou, c'est pas le sexe, c'est pas la violence, c'est peut-être pas l'adoption des enfants, et pas le mariage homo non plus, mais c'est le nucléaire qui est tabou. Alors quand il a fait son film, Il a trouvé aucun financement au Japon. Il a fallu qu'il aille en chercher ailleurs, dans les pays étrangers. Et il paraît que c'est un film d'après Le Canard et d'après David Fontaine, qui fait la critique cinématographique dans Le Canard. Et donc, ça s'appelle The Land of Hope. Hein, moi, je dirais la
en terre. En anglais.
En dessous, ils mettent ce Fukushima qui ne passe pas. Mais c'est... non, c'est la terre de l'espoir, non ?
The Land of Hope. La terre de l'espoir.
La terre de l'espoir, ouais, ouais. Moi, je dirais. Voilà, et ils disent que c'est un très beau film. Donc, si ça passe près de chez vous, eh ben, essayez d'aller le voir. Nous, on essaiera de faire pareil.
Bon, alors, on va peut-être... je ne sais pas si on fait une petite pause musicale à nouveau, ou bien si... je prends le dernier thème qui est la morale de Monsieur Payon. Payons-nous une petite morale à la Jules Ferry et nous serons heureux.
Alors on fait une toute petite pause.